Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierre-Éric.
Nous nous retrouvons donc pour continuer notre exploration du sixième jour. Là, nous sommes donc presque au terme de l'acte créateur de Dieu. Et donc nous avons vu que ce sixième jour était donc marqué l'achèvement de l'homme et notamment à travers son gouvernement. Alors on avait terminé notre dernière émission en essayant d'écrire les différentes catégories du monde animal, puisque nous voyons que dans ce sixième jour, le monde animal est très présent, davantage que l'homme qui arrive en fin de récit. Et puis avant que vous nous commentiez donc ce dernier, je crois ce verset central de tout le récit de la création, à savoir faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors pouvez-vous nous redire un petit peu ces trois catégories animales qui représentent quelque chose dans cet achèvement de l'homme?
Oui, donc nous avons vu à partir du cinquième jour les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, qui faisaient référence au deuxième jour, comme vous savez. Cette fois-ci, nous avons toute vie mouvante sur la terre. Alors, il faut se reporter au texte lui-même, donc du sixième jour. Et la divinité dit que fasse sortir la terre, donc que la terre fasse sortir, de l'âme vivante selon son espèce. Donc, toute l'animalité va toujours être appelée âme vivante. Et en hébreu, c'est nefesh raya. Bête et reptile, et du vivant de la terre selon son espèce, et ce fut ainsi. Et la divinité fit le vivant, donc la terre doit faire sortir, mais c'est un acte divin quand même. Donc autrement dit, Dieu utilise en quelque sorte les actes création précédents pour continuer. Donc il y a une continuité dans son acte créateur. Et la divinité fit le vivant de la terre selon son espèce, et la bête selon son espèce, et tout reptile de la Adama selon son espèce, et la divinité vit que c'était bon. Alors là, on passe directement sur la création de l'homme, qui est inversée, et on retrouve, et la divinité dit alors à l'homme, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur l'oiseau des cieux, sur toute vie des reptiles sur la terre, et à tout vivant de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à tout reptile sur la terre, et voilà les trois grandes catégories, dans lesquelles il y a âme de vie, nefesh raya, toute verdure d'herbe comme nourriture, et ce fut ainsi. Et vous voyez qu'il y aura un autre régime alimentaire pour l'homme, c'est tout ce qui produit semence, comme on a vu au troisième jour. Alors, nous réexpliquons ces choses, mais du fait que le texte nous dit que les animaux ont un type de nourriture et les hommes un autre type, montre que le récit lui-même différencie absolument les animaux de l'homme. De plus, l'homme doit avoir la maîtrise de ce monde animal. Alors qu'est-ce que ça signifie? Nous en étions là. Hein? Toute vie, tout est bête. Donc tout ce qui est vivant, donc pour nous, les chiens, les léopards, toutes les bêtes de la terre, eh bien, concernent la vie intérieure de l'homme. Ce sont les images vivantes, analogiques, des puissances psychiques de l'homme. Et c'est précisément ça dont il faut prendre connaissance pour pouvoir les maîtriser. Parce que ce sont des puissances qui sont en nous. Si on ne les connaît pas, elles vivent de leur vie propre, et ce qu'on appelle nos pulsions. Alors, les choses sont données par Dieu pour qu'il y ait de l'homme. Mais ces données qui sont prédéterminées, donc, puisque ce sont des données, quoique vivantes dans l'homme, l'homme doit les dominer. Autrement dit, ce qu'il a d'abord à gouverner, c'est lui-même, bien sûr. Autrement dit, la vie de l'homme ne peut pas être purement automatique. La biologie, ça marche tout seul. Et puis après, il y a une espèce de désir de se conserver. Donc, on est dans la prédation à ce moment-là. Il nous faut de quoi manger, de quoi... Bon. Et on va le chercher, comme à n'importe quel robot va pouvoir le faire bientôt. Hein? Donc, c'est un programme, ça. Oui, mais il va falloir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du programme, qui régule le programme et qui peut le changer à l'occasion. Et ça, c'est l'intelligence humaine. Donc, il va s'en rendre maître. Il devra aussi prendre le gouvernement sur lui-même en tant qu'il existe avant que de le vouloir. Vous voyez, nous, notre existence nous est donnée avant que nous voulions exister. Mais cette existence nous est donnée pour que nous voulions exister. Et évidemment, ici, il y a un choix capital qui va être dit ensuite dans la Révélation. On verra ça avec Josué quand il rentre dans la terre promise. Choisissez donc la vie. Vous avez devant vous la vie et la mort, mais choisissez donc la vie. Donc, c'est pas obligé, mais c'est nécessaire. Et nous avons un choix à faire. Et ça, c'est notre liberté. Choisissez donc la vie.
Oui. L'intentionnalité qui était mentionnée, donc je crois, au troisième jour.
Oui, là, et surtout le quatrième
et
aussi.
Le quatrième,
alors, oui. L'intentionnalité des choses doit nous apparaître et nous devons les prendre en main. Quelles sont les choses sans lesquelles l'homme n'existerait pas, mais dont il doit prendre le gouvernement pour obéir à son devoir-être révélé dans la bénédiction divine? Oui. Eh bien, ce sont les animaux qu'il doit nommer d'abord, comme on l'explicite plus loin. C'est-à-dire, on verra dans ce qu'on appelle le deuxième récit de la création, qui n'est pas un deuxième récit, qui est le zoom avant, le grossissement du sixième jour. Parce que le sixième jour, c'est pris dans une structure des six jours, justement. Et donc, on ne peut pas tout dire. Il va y avoir tout le reste pour l'expliciter. Eh bien, on voit ça au chapitre 2, verset 19. « Yodévavé Dieu » façonna à partir de la Adama, donc c'est comme le sixième jour, tout animal des champs et tout oiseau des cieux, et fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellerait, et tout ce que l'homme aurait appelé parmi les souffles vivants, donc parmi les vivants, les bêtes, cela sera son nom. Alors ça c'est capital, parce que ça veut dire que nous avons à nommer les puissances intérieures qui nous constituent. Et évidemment, pour en parler, nous avons un cinéma extérieur, c'est en nommant les animaux qu'en fait, on nomme nos puissances intérieures. Et je dis que c'est la première tâche humaine que de nommer les animaux, comme il devra les faire monter dans l'arche, si on se souvient, après la chute. Pourquoi ? Pour les réintégrer quand il va falloir refaire de l'homme, quand l'homme sera arrivé à une espèce de confusion mentale terrible, où il ne va plus se distinguer des animaux. Il va se conduire comme les animaux. Mais quand on se conduit comme les animaux, on les exploite, on ne les domine pas vraiment. C'est pas la même chose du tout. Parce que, se voyant comme un animal, Nefesh Raya, c'est le capital des formes intérieures qu'il ne peut plus reconnaître. C'est ça, c'est aussi un effet de la chute. Mais ici, on est bien avant. Donc, il n'y a pas ce problème. Mais, originairement, la tâche de l'homme est de prendre conscience de ce qu'il est. Aucun animal n'a ce travail à faire, bien sûr. Hein? Une girafe n'a pas besoin de dire « je suis girafe ». Mais nous, on a besoin « je suis un homme ». Donc, mes comportements qui sont du type du lion, par exemple, la puissance dévorante, disons, oui, mais je dois maîtriser ça. Je ne dois pas me comporter comme un lion, ni comme un cheval, ni comme un zèbre, ni comme un renard.
C'est une puissance, le lion de Juda. Alors,
je dois avoir tout ça en moi, mais sous ma maîtrise.
C'est ça,
voilà. Et les utiliser à bon escient.
Elles sont bonnes, mais on les contrôle.
Voilà. Mais voilà, tout est dans le contrôle du contrôle. Les animaux ont un contrôle de leur vie. Mais qui est purement automatique, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Avec des ratés aussi d'ailleurs, parce qu'il y a de l'aléatoire dans le système. Mais nous, on doit prendre le contrôle de ces affaires-là.
On peut penser aussi au récit, bon, même si nous le découvrirons peut-être un peu plus tard, mais du récit entre les deux frères, Caïn et Abel, et puis cette bête que Dieu lui demande de dominer. À sa porte, oui, et qu'il ne domine pas, il tue son frère.
Voilà. Donc c'est une part d'animalité qui est en lui, qui s'est réveillé parce qu'il n'a pas su faire le sacrifice qu'il fallait, donc l'agneau. Justement, il n'a pas la maîtrise de cela. Donc. Et donc, nous sommes en quelque sorte face à la toute première psychanalyse réelle. C'est de nommer les puissances qui sont en nous. Il ne s'agit pas de maladie pour l'instant. Il ne s'agit pas d'aller guérir des dysfonctionnements. Il s'agit de fonctionner, justement. Mais déjà pour fonctionner, en dehors de toute pathologie, il faut savoir quelles sont les puissances qui nous habitent. La prise de conscience des formes internes qui nous donnent le pouvoir de parler et de dire le monde et nous-mêmes comme Dieu nous a donné de le faire et comme, en principe, il les a dit. Parce qu'on nous dit que toute la création, c'est une parole divine. Alors, qu'est-ce que ça sera que notre parole ? Mais notre parole va être l'écho et comme la réponse à la parole divine. Dieu crée les arbres. Il faut que nous puissions nommer les arbres. Parce qu'en nommant les arbres, nous faisons vivre en nous la forme arbre. Comme Dieu a pensé la forme arbre pour la créer. Mais nous, en la disant, on ne va pas la créer, mais on va la connaître et du coup maîtriser ce qu'elle signifie. Donc ça va être notre bien propre. Autrement dit, le monde est entièrement à connaître pour être, comment dire, le lieu de la parole humaine qui va être une parole d'action de grâce, c'est-à-dire une parole en écho de la parole divine. Mais si on ne regarde pas le monde, si on ne le connaît pas, eh bien, on ne peut pas rendre gloire à Dieu. Alors, c'est bien une psychanalyse, une analyse de la psyché, car il s'agit bien de la vie psychique avec ses contenus et qui ne relève pas du sens ni de l'inspiration. Vous comprenez bien que les puissances psychiques qui sont en nous, ce n'est pas la recherche du sens, c'est autre chose. C'est au niveau des énergies. Mais du fait de les voir et de les nommer, pour ne pas rester dans l'innommable. Car si nous n'entrons pas dans cette conscience, nous sommes quelque part flottants sur notre propre être et qui est innommable. Eh bien ça, c'est pas vraiment humain. Il n'y a pas de maîtrise. Voyez, on est là, on est poussé par je ne sais quoi sur un océan sans rivage. Enfin, on est perdu, paumé. Hein. Mais ça, c'est plutôt notre état. Mais c'est pas l'état d'Adam. Il doit le faire. Alors, de quoi est faite la vie psychique humaine ? Eh bien, des configurations dynamiques vivantes dont nous trouvons l'image analogique dans les différentes espèces animales. Et c'est pourquoi c'est utile de faire un peu de zoologie quand même, d'aller regarder ce que sont les animaux, pas simplement pour notre utilité matérielle, pour manger. Ça, c'est la prédation animale qui mange les autres animaux ou les autres végétaux, mais pour la connaissance de la vie intérieure. Alors, tout le monde le sait que les animaux peuvent figurer des instances intérieures. Et même Jésus emploie cette méthode. Hein. Par exemple, il va dire à Hérode, par exemple, « Allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons. » Donc ça a à voir avec l'image du renard. Hein. Parce qu'au renard, on peut dire ça. « Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, c'en est fait de moi. » Ça, c'est dans l'évangile de Luc. Alors, quel est le rapport du renard avec le fait que Jésus sache chasser les démons ? Hein ? Dit ce renard, ça veut dire que Hérode est dans un état de décrépitude avancé, puisqu'il est assimilable, analogiquement bien sûr, quand même, à l'aspect renard. Alors tout le monde dit que le renard, il est rusé. Alors, il faut savoir ce qu'on dit. La ruse, ça consiste à mettre un piège devant son ennemi, ou devant le renard qu'on veut attraper. Or, un renard n'a jamais mis de piège à personne. Mais ce qui caractérise sa ruse, c'est qu'il sait déjouer les pièges. Tu sais encore déjouer des pièges. Eh bien, profites-en, car je chasse les démons, parce que les démons, eux, t'ont piégé. C'est ça que ça veut dire. Hérode est piégé par les démons, mais il lui reste ce peu d'intelligence humaine, parce qu'il y a la puissance du renard en nous, qui est de dire, mais pour échapper à ce piège, il faut que je fasse appel à Jésus qui chasse les démons. Dans 3 jours, ça sera fini. Alors là, c'est une autre explication qui vient. Mais voyez, donc l'utilisation, l'usage du même du mot, c'est pas une injure que Jésus fait. Jésus ne donne injure à personne. Hein. Mais il traite aussi quelques ennemis là, de serpents. Hein. Mais à cause, c'est aussi un compliment. Il ne leur reste que cela. Mais le serpent symbolise quelque chose de capital. Là aussi, le serpent n'attaque jamais personne. Mais si on lui marche dessus, évidemment, il vous mord, si c'est une vipère, c'est dangereux, ou il vous enroule, il vous étouffe, etc. Bon. C'est des puissances qui sont dans l'homme. Alors un homme qui est un serpent, il utilise sa puissance inconsciemment pour étouffer les autres, par exemple. Alors beaucoup de gens qui sont des serpents, parce qu'ils vous étouffent. Il y a des familles comme ça. Hein. Bon. Et ces images sont très importantes parce qu'elles vont marquer les configurations psychiques et les énergies intérieures qui sont en nous.
Jean-François, nous écoutons un extrait de César Franck. Jean-François, nous reprenons. Nous avons vu donc cette nécessité pour l'homme de gouverner les puissances psychiques internes qui l'habitent. Alors peut-être c'est bien de redire quelques mots sur l'importance de ce gouvernement et puis quel lien y aurait-il entre le corps psychique de l'homme et son corps spirituel ?
Oui, ça nous conduira vers Saint Paul.
Vers Saint Paul. Voilà.
Alors, c'est sûr que ce qui caractérise les instances psychiques animales dans l'homme, autrement dit, sa vie psychique, tant qu'elle n'est pas régulée par autre chose. Eh bien, c'est leur appétit. Parce que ce qui caractérise l'animal, c'est l'appétit. Alors, ces appétits ne peuvent être assouvis que par la prédation. Que ce soit un appétit de nourriture, un appétit sexuel ou quoi que ce soit. C'est la prédation. Les animaux sont mus par leur convoitise. Ils n'y peuvent rien. Donc, eux, ils ne sont pas responsables.
Ils sont programmés ainsi. Oui.
C'est programmé ainsi. Et donc, ils ne connaissent pas d'autre loi que l'assouvissement ou la faim, parce qu'ils ont trouvé ce qui les satisfait, ou alors ils ont faim. Ils ont faim de nourriture, ils ont faim d'autre chose. Alors, ils ont la frustration du désir quand ils n'ont pas l'accomplissement du désir, qui est un appétit qui ne peut s'assumer que par la prédation. Eh bien, rien ne vient réguler le désir chez l'animal, sinon les conditions extérieures de concurrence et, ou de rareté. Donc le combat des animaux ou la rareté de la nourriture, etc. Ça va faire une régulation chez les animaux. Si on regarde bien qu'il s'agit justement de maîtriser ces choses-là, que l'homme domine les animaux de la terre, etc., Mais si on a bien entendu ce qu'on vient de dire, c'est la description exacte de la vie économique que nous vivons, où il est question de prédation, avec des grands fauves qui en dévorent d'autres, avec de la frustration, de l'assouvissement, de la concurrence et de la rareté. C'est presque le langage de l'économie moderne. Donc nous pouvons dire que l'économie moderne est entièrement gouvernée, ou plutôt programmée, par les côtés animaux de l'homme, parce que c'est des instances intérieures aux hommes, qui fonctionnent inconsciemment, parce que l'homme n'a pas pris la maîtrise de ces choses. Donc, il est l'esclave. Donc, tous les hommes qui ne se rendent pas maîtres de ces pulsions collaborent à une société de prédation, de concurrence, de rareté ou de satisfaction. Bête, 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 trois fois bête. Et nous y sommes. Donc vous voyez que ce récit du sixième jour a une actualité brûlante, si j'ose dire. Alors, pourquoi en sommes-nous là? Puisque le devoir de l'homme, c'est de maîtriser ces choses. Donc de ne pas faire une économie qui soit fondée là-dessus. Elle devrait être fondée sur la raison. Or, ce n'est pas du tout le cas. Si les animaux ont une certaine autonomie dans leur recherche de satisfaction, ils n'ont pas d'instance régulatrice de la régulation autonome des échanges, caractéristique de la vie. Et quand on n'a pas la régulation des automatismes, on est destiné donc à subir l'aléa dans la régulation. Donc il n'y a plus de nourriture, on meurt. Famine. Mais ça, c'est typique de l'animal. Et c'est typique de la corruptibilité du corps animal. Donc les animaux sont destinés à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette instance régulatrice. Mais l'homme du sixième jour, qui est l'homme conçu par Dieu, qui est parfait, reçoit, on va voir comment, une instance régulatrice de tout ça. Donc son corps est incorruptible, s'il l'exerce, et donc il est immortel. Et c'est bien à cause de la chute, donc d'un dérangement, que l'homme connaît la mort comme les animaux, puisqu'il s'est réduit lui-même à l'état d'animal. C'est une faute de nature, et nous en héritons tous, parce que nous savons tous, et nous l'admettons, que nous sommes mortels. Et ça nous... Alors du coup, si on raisonne à partir de ce constat absolument lamentable, mais vrai, que nous sommes mortels, si on remonte vers les principes, sans la révélation, on va dire oui, mais bien sûr, mais nous ne sommes que des animaux. Et on ne voit pas ce que la raison vient faire là-dedans, bien sûr. Et donc, on abjure la raison humaine. Or, comme dit Jésus à Catherine de Sienne, sans la raison, vous ne pouvez être sauvés. Parce que c'est ça qui fait l'homme. Ça ne fait pas l'animal. Et donc,
alors comment cette raison nous est transmise, puisque nous avons donc un contrôle supplémentaire, le contrôle
oui,
du contrôle,
exactement,
par rapport au règne animal.
En principe, mais seulement c'est à nous de le mettre en œuvre.
Voilà,
ouais. On en reçoit la possibilité, si on ne le met pas en œuvre, il n'y a pas, donc on se conduit comme des animaux.
Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu dans le récit donc une intentionnalité de Dieu particulière concernant l'homme et sa capacité à quitter ce règne animal qui fait de lui un mortel.
Parce que l'homme n'est pas conçu, pour être un animal. Il a tout en lui, comme justement roi de l'univers, ça veut dire qu'il a tout en lui. Il ne s'agit pas d'aller dompter les lions au fin fond de l'Afrique. Il s'agit de dompter en nous. Et nous, on pense qu'il faut sortir de l'animalité parce que nous y sommes tombés. Pas du tout parce que nous y sommes nés. Dans la création, j'entends. C'est ça la révélation. Alors, ça prend à rebours à peu près toutes les idées du siècle, ça, il n'y a pas de doute.
Bon, en gros, je voulais vous conduire, mais plutôt au second jour, avec ce souffle rationnel
qui fait que
l'homme est spécifique.
On le verra le second jour. Mais on peut en parler déjà un mot. Pourquoi? Parce que le rapport du corps psychique et du corps spirituel est très important D'abord, nous, on ignore qu'il y a un corps spirituel, déjà. Un corps psychique, d'accord, on comprend à peu près. Parce qu'on vit comme des animaux, bon. Ou presque. Pas tout à fait, cependant. Il y a quand même un vague souvenir en nous d'autre chose. Hein. Et il faut comprendre la différence du corps animal et du corps spirituel. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui constitue la réalité de l'homme achevé. Donc l'homme du sixième jour, l'homme du dernier jour, l'homme qui va ressusciter, parce qu'il est mort. Et cela, on le voit dans ce qu'on appelle le second récit de la création. Parce que, si vous vous souvenez bien, Dieu prend de la poussière de la Adama, de la terre, si on veut, il la resserre, la poussière, tout c'est très aérien, tout simplement, comme un façonnement, mais c'est pas de la poussière humide, hein, c'est pas de la glaise. Contrairement à tout ce qu'on raconte, il suffit de lire l'hébreu. C'est de la poussière, il la rassemble, il en fait un homme, en quelque sorte, et il souffle dans ses narines. Alors on l'expliquera une autre fois, hein, ce que ça veut dire tout ça. Mais ce qui est très important pour nous maintenant, c'est qu'il souffle un souffle de vie, mais qui a un nom spécial, qui n'est pas l'âme vivante dont nous parlons ici. Il souffle Nishmat Raïm, Neshama. Alors, c'est à peu près intraduisible, donc il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce souffle de vie ? On prend l'image de Dieu, qui est figuré comme un autre homme, en fait. C'est un anthropomorphisme. Parce que pour souffler dans une narine de quelqu'un, nous, on saurait faire, hein, bon, pour le réanimer. Mais là, c'est pour l'animer. Et il souffle pas Nefesh Raya, ce qui rend animal, justement, mais Nishmat Raïm, il souffle son souffle à lui. Or, c'est une image qu'on va rencontrer plus loin, ça. Le souffle de Dieu, par exemple Jésus, après la résurrection, souffle sur ses disciples. Alors, pas dans les narines directement, comme ça, mais... Et il dit, recevez l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce qui est donné à l'homme, à sa création ? L'Esprit Saint. Et c'est ce qui va le faire à la ressemblance de Dieu, d'ailleurs. Parce qu'il va être animé du même esprit qui anime, si on peut dire, Dieu.
Ce qu'il va perdre à cause de la chute et qu'il devra recevoir à nouveau.
Voilà.
On pourrait dire aussi qu'il est présent, donc, déjà dès le premier verset, à travers ce souffle qui couve sur les eaux. Nous sommes aussi...
Oui, bien sûr.
Pour dire que c'est vraiment dès l'origine.
Voilà. C'est dès l'origine.
Oui. Dès l'origine. Dans la conception, la fabrication
bien sûr, de l'homme. Tout est conçu, premièrement, pour faire de l'homme. L'homme est la cause finale de l'univers. C'est-à-dire, il y a un univers pour faire de l'homme. Et la cause finale de l'homme, qu'est l'homme plutôt ? C'est en fait d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. On va voir. Mais qui est vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu ? Celui qui vit de son esprit. Et comme cela a été détruit par le péché originel, il nous faudra plusieurs heures pour expliquer ça, il va falloir justement la rédemption, et le Sauveur va être précisément un homme véritable, mais qui est vraiment uni à Dieu, et il se trouve que lui, il va être vrai homme et vrai Dieu. Ce que d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, tout homme doit devenir. Non pas par nature, mais par adoption, comme on dit. C'est-à-dire que nous devons recevoir la participation à la nature divine, comme dira saint Pierre dans son épître. Hein, nous, mais évidemment, par la chute, nous perdons la participation à la nature divine. Donc il va falloir le rétablir. Mais là aussi, on a fait un pas de géant vers la fin de la rédemption. Mais pour l'instant, nous en sommes à la conception. Mais ça nous donne l'occasion de comprendre le rapport qu'il y a entre le corps psychique et le corps spirituel. Après la chute.
Alors peut-être avant, Jean-François, oui, prendre une seconde pause musicale. Thank you. Jean-François, nous reprenons. Nous étions donc, vous étiez en train de nous expliquer la centralité de l'homme à travers l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas rien, alors vous ne l'avez pas développé complètement, mais Dieu prend chair dans un homme.
Tout à fait.
Pas dans un ange d'ailleurs. Voilà. On pourrait penser que voilà, d'autres créatures sont plus méritantes, et non, c'est dans un homme que Dieu nous rejoint. Et peut-être que ça fera un lien, je ne suis pas sûr, mais avec le commentaire que vous voulez nous faire sur saint Paul, quoi, ce corps psychique et ce corps spirituel qui nous caractérise.
Oui, parce qu'on a parlé de corps corruptible et de corps incorruptible. Ce qui assure en quelque sorte la corruptibilité du corps, c'est le manque d'une régulation qui fait qu'on ait une vie complète. La vie de l'animal n'est pas complète. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la régulation des régulations. Il se trouve que dans l'homme, à travers son intelligence et sa volonté, il va y avoir la possibilité d'avoir cette régulation. Mais notre expérience nous montre que ce contrôle du contrôle n'est pas complet. Et la preuve, c'est qu'on meurt encore. Et donc la résurrection vient pour nous donner l'achèvement du contrôle, qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la chute. Et alors du coup, on va pouvoir comprendre justement le texte de saint Paul qui en parle. Alors je vous le lis, si vous voulez. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. On est semé corruptible, on se relève incorruptible. » On est semé méprisable, on se relève glorieux. On est semé faible, on se relève fort. On est semé corps psychique, on se relève corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. Donc, saint Paul le rappelle, parce qu'on a tendance plutôt à l'oublier, ça. C'est ce qui est écrit. Le premier homme, Adam, parut en âme vivante. Et le dernier Adam, en esprit qui fait vivre. Alors évidemment, Paul assimile le dernier Adam à Jésus. Mais Jésus, c'est le véritable homme, ecce homo. Donc c'est l'homme du dernier jour. C'est l'homme du sixième jour accompli, qui va pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Et ce qu'il fait, puisqu'il est rentré dans une tente non faite de main d'homme, etc. Voir l'épître aux Hébreux. Il n'y a pas d'abord le spirituel, mais le psychique, ensuite le spirituel. Ça, c'est notre condition actuelle, après la chute. Le premier homme tiré du sol terrestre, le deuxième homme vient du ciel. C'est celui qui a reçu le Nishmat Rahim, le souffle divin. Tel le terrestre, tel aussi les terrestres, tel le céleste, tel aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui restaure l'homme dans sa perfection, qui est voulue par Dieu et prophétisée par Dieu, dans le récit que nous étudions le sixième jour. Tout le récit de la création est un récit prophétique. C'est pas ce qui s'est passé dans les temps immémoriaux. C'est ce qui se passe quand de l'homme a lieu. Il ne faut pas lire ces textes comme des mythes anciens, mais comme des récits parfaitement actuels, mais énigmatiques. Alors, évidemment, on ne comprendra que l'homme dernier, c'est-à-dire l'homme achevé, est esprit vivifiant. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit ce souffle divin qui l'anime d'abord. Parce que Dieu souffle dans les narines d'Adam un Nishmat Rahim, donc son souffle à lui. Ce qui fait que, si vous regardez l'image, l'homme est insufflé. Mais quand on est insufflé, il faut forcément expirer. Et donc il va y avoir une espèce de réciprocité dans l'esprit entre Dieu et l'homme. On va respirer de la respiration divine. C'est une façon de parler, bien sûr. Alors que nous, on respire d'une façon animale, uniquement par prédation. On a besoin de l'oxygène pour vivre, ça c'est vrai. Hein ? Mais c'est une espèce de prédation. Et on rejette du CO2, tant qu'on veut. Bon. Et donc, nous verrons, en étudiant le récit du Jardin d'Éden, le complément indispensable de ce récit. Cependant, nous devons et nous pouvons interpréter le sixième jour sans connaître ces distinctions de Paul qui lui sont dictées par l'histoire. Il s'agit de l'homme déchu, devenu charnel, comme il dit, c'est-à-dire réduit au corps animal corruptible, soumis à la mort, et de l'homme relevé de la maison des morts, dont Jésus est le premier exemple. Donc, on voit que le texte de Paul nous rappelle, en fait, le sixième jour, mais après la chute. Et, en annonçant cette bonne nouvelle, il y a un relèvement. C'est la seule bonne nouvelle possible, imaginable. C'est que l'homme peut redevenir ce qu'il a été voulu par Dieu. Voilà. Alors, si l'homme, Adam, doit dominer sur le poisson de la mer, l'oiseau des cieux et sur toute vie qui se meut sur la terre, c'est qu'il représente une instance capable de gouverner le monde animal, c'est-à-dire capable de gouverner sa propre vie psychique. Et du coup, maintenant nous sommes à pied d'œuvre pour étudier le verset central du sixième jour.
Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Voilà. Alors je vais le dire en hébreu parce que Vayomer Elohim, et Dieu dit, Naase Adam, faisons l'homme, ou nous ferons, parce qu'on peut le traduire par un futur, Betsalmenu, alors, dans notre image, comme notre image, et on va voir que ça peut vouloir dire autre chose, qui démoutez-nous, comme notre ressemblance. C'est pas notre ressemblance, c'est comme. Alors, ce verset est une pure merveille, on va le voir. Eh bien, ça pose immédiatement un problème. C'est que Dieu parle au pluriel, tout d'un coup, et il dit « faisons ». Alors, il y a des tonnes d'encre qui ont coulé sur les pages de tous les savants de tous les siècles précédents. Et ce pluriel a été interprété de façon différente. Et j'ai pris l'interprétation de Rashi. Rashi, vous savez, c'est un rabbin du XIe siècle, de Troyes en France d'ailleurs, qui a été le grand interprète des Écritures et qui est encore d'ailleurs très lu et très interprété. Mais lui, il vient au XIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, son interprétation est visiblement antichrétienne. Et voilà ce qu'il dit. Il vaut mieux le savoir parce que faisons l'homme. Bien que personne n'ait aidé Dieu dans l'œuvre de la création, et que les hérétiques pourraient tirer parti de ce pluriel contre le monothéisme, ça c'est directement contre les chrétiens. Pourquoi ? Parce que les chrétiens disent que Dieu est trine, trois en un. C'est un monothéisme, mais quand on ne le comprend pas, on croit que c'est un trithéisme. Et malheureusement, pour des esprits pas très éduqués, ça s'en approche. Parce qu'on dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors si on est distrait, ça fait trois dieux. Ce que jamais, au grand jamais, l'Église n'a enseigné. On a toujours enseigné qu'il y avait un seul Dieu qui avec trois hypostases. Alors c'est un mystère qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais il ne s'agit absolument pas d'un trithéisme. Il s'agit d'un monothéisme un peu développé, disons. Hein, un peu conçu et intelligent. Alors, pour sauver ce qu'ils croient être l'opinion des hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens, là, hein, la Torah n'a pas voulu manquer de donner une leçon et d'enseigner la vertu de modestie. Le supérieur doit prendre avis et demander autorisation auprès de son inférieur. Alors, vous voyez la projection anthropomorphe sur Dieu. Alors, là, je renvoie le compliment à Rashi, que j'aime bien par ailleurs. Hein? Si la Torah avait écrit « Je ferai l'homme », cela ne nous aurait pas appris que Dieu a consulté son conseil. Donc il va inventer un conseil à Dieu. Mais qu'il a formé son projet seul. Mais la réponse aux hérétiques est donnée dans le verset qui suit immédiatement. « Et Dieu créa l'homme », le texte ne porte pas « Ils les créèrent ». Et... Bon, alors, à notre image, lui, il interprète ça sur notre modèle. Et à notre ressemblance, il s'agit de l'intelligence et de la vie intérieure. Et qu'il domine, mot à double face, etc. Donc, vous voyez, et cette interprétation est encore valide pour certains. Bon. Alors on va voir qu'il ne s'agit vraiment pas de cela. Mais pour ça, il faut étudier l'hébreu d'un peu plus près. Je ne dis pas que Rashi ne connaissait pas l'hébreu, loin de là, hein, mais son principe d'interprétation est faux.
En tout cas, ça nous dit que si l'être humain est un être rituel et un être de société, on peut aussi l'entendre du côté de Dieu à travers ce pluriel.
Ben alors, c'est la tentation qu'on a de projeter ce faisons comme s'il y avait une société en Dieu.
Ou au moins une relation.
Ah, c'est pas du tout la même chose. Ben, alors, saint Thomas d'Aquin va résoudre le problème au niveau intellectuel. Mmh. Hein, il va parler de relations subsistantes. Mmh. Il y a trois relations subsistantes qui ne forment qu'une seule substance, qui sont consubstantielles. Donc il y a un seul Dieu. Mais ça, c'est une théologie dans une certaine philosophie très développée, très raffinée. Et évidemment, le texte lui-même ne le comporte pas, mais on peut l'en tirer. Simplement, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, et disons un peu de l'énigme de cette phrase. D'abord, le problème de ce pluriel a été ressenti depuis toujours, même avant Jésus-Christ. Parce que c'est un texte qui a été lu depuis Moïse. Bon. Et au début de l'Église, ça a fait problème. Comme ça a fait problème pour Rashi, comme ça a fait problème pour nous. Qu'est-ce que c'est que ce pluriel dans Dieu? Eh bien, il y a une décision, il n'y en a pas beaucoup, sur le sens de cette écriture, et il y a un pape qui a tranché la question. C'est le pape Liber, en 357. Donc c'est au IVe siècle. Bon, il y a des gens qui réfléchissaient à l'époque. Et il a pris cette décision dans une petite ville de la Slovénie actuelle, qui s'appelle la Pannonie à l'époque, à Sirmium. Alors, les gens qui veulent aller chercher, ils pourront trouver. Hein. Et ça s'exprime ainsi. C'est en grec à l'époque. Si quelqu'un dit que la parole « faisons l'homme » n'a pas été dite par le Père au Fils, mais que Dieu a parlé lui-même à lui-même, comme quelqu'un qui réfléchit, quoi, qu'il soit anathème. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement rare, ça, que le sens d'une parole de l'Écriture soit tranché par l'Église. Il y a 3 ou 4 cas, pas plus. Parce qu'on croit que tout est déterminé, mais pas du tout. Mais là, oui. Pourquoi ? Il y a un gros enjeu derrière. C'est justement sur le monothéisme. C'est le Père qui parle au Fils. Alors, ce qui n'est pas dit, Dieu ne parle pas lui-même à lui-même. Donc, ça n'est pas une des hypostases qui parle à lui-même. Donc, ce n'est pas le Père qui parle au Fils en tant qu'hypostase divine. C'est le Père qui parle au Fils en tant qu'être humain. Ah bon, ça c'est capital, parce que au Fils incarné, dans la préscience divine évidemment, ça veut dire que la parole de Dieu s'adresse à l'homme qu'il va créer. Faisons l'homme. Alors l'homme est déjà là. Faisons, c'est Dieu et l'homme qui doit faire de l'homme.
Oui, ça devait être, c'est très nouveau. Mais c'est intéressant.
Faisons l'homme. Pourquoi ? Parce que toutes les conditions de l'homme sont données. C'est une création de Dieu, bien sûr. Mais pour que l'homme soit vraiment achevé, sixième jour, il faut que l'homme fasse lui-même quelque chose que Dieu lui donne à faire pour être vraiment homme.
C'est ça.
L'homme n'est pas totalement créé par Dieu.
Il doit entendre le commandement que Dieu lui adresse et répondre.
Faisons l'homme. Alors, c'est la proposition que Dieu nous fait, c'est de faire de l'homme. Même si nous n'avons pas péché, comme Adam au départ, nous entendons ça. Faisons l'homme. Et il y a une espèce d'acte de liberté qui est interne à la nature humaine. Veux-tu te réaliser ou pas ? Veux-tu vivre de cette vie véritablement humaine ? Tu le peux.
Choisis.
Et comment ? Betsalmenu, dans notre ombre, parce que Tselem, ça va vouloir dire l'ombre. Alors, on a traduit comme image, parce que les Grecs ont traduit par eikon, qui veut dire l'image, mais on va voir l'inconvénient de traduire comme ça. Et de mout à notre ressemblance. Mais le mot ressemblance, je termine là-dessus, sa racine c'est dame, le sang. Mais le sang c'est chez l'homme, c'est pas chez Dieu. Mais il se trouve que Dieu dit qu'il a aussi du sang. Mais où aura-t-il du sang? Dans le vrai homme et vrai Dieu. Et donc c'est une prophétie de l'incarnation du Verbe.
Merci vraiment beaucoup Jean-François. Et puis bon, d'autres découvertes à faire dans d'ultimes émissions.
Nous n'avons pratiquement rien dit cette phrase.
Oui.
Il nous faudra des heures si Dieu nous en donne l'occasion.
Voilà. Merci encore, à bientôt.
Au revoir Père Eric.
يسمحوا هالشمايين